Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le 23e épisode du podcast officiel des Cahiers du Catch. On va parler aujourd'hui du Monday Night Raw du 26 septembre 2016. Et pour m'accompagner ce soir, mon meilleur ami Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël?
Ça va bien, et toi, effectivement, on ne se quitte plus cette semaine.
C'est ça, jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin de la semaine, tous les deux.
Presque, oui.
Donc, un Raw qui se déroulait à Cincinnati dans l'Ohio, un état producteur de patates, et qui démarre avec le champion US, Roman Reigns, qui débarque au ring et qui va avoir un rematch contre Rousseff. Hein. Rousseff a tout de suite demandé son rematch, parce que Roman Reigns a été couronné, vous le savez peut-être, champion US lors du dernier pay-per-view, Clash of Champions. A eu lieu dans la nuit de samedi de dimanche à lundi. Rousseff, il veut tout de suite son rematch, donc ça commence tout de suite pour l'opener de Raw. Donc on a un match qui est très très tourné autour de la lutte au sol avec beaucoup de prises au sol, des ceintures avant, des colliers arrière, des choses comme ça. Et Roman Reigns y vend une blessure au dos. Il se tient souvent le dos, ce qui l'handicape pas mal dans le match. On a des preuves de force autour d'une prise de l'ours portée par Rousseff. Un puissant dropkick de Rousseff à un moment donné. Des puissantes souplesses également, toujours donc, tout en puissance, hein, Rousseff. À un moment donné, ça, tous les deux passent par-dessus la troisième corde. Rousseff, il va encore envoyer Roman Reigns dans le poteau, histoire de lui bousiller encore un peu plus le dos. On se retrouve aussi un peu plus tard dans le match avec une séquence dans le coin du ring sur la troisième corde où Rousseff tente un superplex qui est contré. Roman Reigns en profite pour faire une diving clothesline, place un Samoan drop, il tente une powerbomb. Voilà, tout ça est très serré, mais ça se termine au final par un double décompte extérieur. Voilà, Roman Reigns il va se battre avec Rousseff à l'extérieur et puis ils font pas attention aux décomptes de l'arbitre, donc ils se font compter. Donc après ils vont se battre dans le public aussi. Voilà, c'est pas mal pour ouvrir le show. Et au final, pendant qu'ils sont en train de se battre, Rousseff il réussit à attraper une chaise. Il agresse Roman Reigns avec la chaise. Mais après, bon, Roman monte dans le ring. Il réussit à placer un spear sur Rousseff. Et donc Rousseff est séché. Roman Reigns, il se met assis sur sa chaise. Il se pavane un petit peu. Et après, on ne sait trop pourquoi, il remet un coup de chaise à Rousseff pour bonne mesure. Donc voilà, un Roman Reigns triomphant. Badass pour une ouverture de show qui est ma foi relativement sympathique. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, Raphaël.
Ouais, alors j'aurais quand même un petit grief. Je sais pas s'ils sont pressés par le temps ou quoi, mais j'ai trouvé ça un petit peu couillon de vraiment la diffusion lance. C'est Reigns qui rentre et on a à peine le temps de comprendre que Rousseff est là. Enfin, enfin, moi j'ai pas vu l'entrée de Rousseff hein, dans la version que j'ai récupérée. A priori,
Ouais, il n'y
ça a
avait pas
commencé
d'entrée
bien.
de Rousseff, hein, il était déjà dans le ring, hein, effectivement.
Donc c'est bien cette impression de genre comme s'il fallait vite lancer le direct, bon qu'on exploite un petit peu quand même un peu plus posément, même si on n'a pas beaucoup, enfin même si Raw est très chargé, qu'il y a un rematch tout ça, mais sinon cette rivalité se poursuit et c'est plutôt bon, hein. Alors on en a parlé hier pour ceux qui vont nous écouter dans le podcast spécial Clash of Champions, mais cette rivalité au long cours, du coup on a réussi plus ou moins, enfin en tout cas moi, à oublier un peu ce début laborieux avec des histoires de mariage, de gâteau à la crème et tout. Et là, on est vraiment dans la domination physique, celui qui sera le plus, comme tu disais, plus puissant, le plus violent. Et ça donne des matchs vraiment sympathiques. Bon, est-ce que c'était pas un peu précipité de rebooker un rematch dont on se doutait très bien là qu'il n'y aurait pas de nouveau changement de titre déjà, mais au moins on sent qu'il y aura encore du beau fight en perspective. T'as pas cité, mais il y a eu une nouvelle petite intervention de Lana qui est montée sur le ring à un moment pas trop ce qu'elle fait, elle se met un peu à crier et Roman Reigns, ça l'a déconcentré le pauvre, donc ça, alors qu'il était, il allait placer son spear, je crois, ou son Superman Punch.
Ouais, c'est ça.
Donc il peut se passer encore des trucs. Moi, je serais pas contre que ça se poursuive encore sur plusieurs matchs et que Rousseff regagne puis reperde à la limite. Mais ouais, les deux donnent du bon boulot. Et ouais, j'aime, même si Roman Reigns toujours est celui qui prend le dessus au final, c'est plutôt pas mal.
Voilà, ouais, encore un match relativement propre. Après, bon, on est peut-être un petit peu gavé de les voir s'affronter. Du moins que c'est peut-être un peu rapide par rapport au match qu'on a eu il y a 2 jours.
Ouais, toi, t'en as
Puis,
marre de les voir tous les deux?
disons, non, dans l'absolu, non. Mais là, c'est un petit peu rapide par rapport au match qu'on a eu il y a 2 jours, sachant qu'effectivement, comme tu disais, il n'y aurait pas trop de surprises. Il y a peu de chances que Rousseff récupère la ceinture aujourd'hui. Maintenant, bah on y reviendra plus tard, mais voilà, j'ai dit que c'était un bon opener de show dans l'absolu, mais en vérité, s'ils avaient voulu être malins, je pense qu'ils auraient ouvert le show avec les Cruiserweight. Parce que du coup, là, le match, il passe et puis il est assez oublié. Je suis pas sûr que c'était la meilleure manière de commencer l'Euro du lendemain, on va dire, Monday Night Raw du lendemain.
Oui, clairement, on peut mettre un peu plus de dramaturgie autour d'un rematch, même s'il était de fait, comme il y a eu changement de titre, il y aurait eu rematch, mais là, un peu rapide.
Ouais. Puis bon, Roman Reigns invincible quoi. Hein, donc là, on repart sur une reconstruction d'un Roman Reigns, le Big Dog, hein, comme il l'appelle, le mec le plus balèze du circuit.
Ouais, c'est ça.
Maintenant, allez savoir pourquoi le mec le plus balèze du circuit se contente de la ceinture US. À voir comment ce sera exploité par la suite, qu'est-ce qu'il va en faire de cette ceinture.
Ah, là, tu ouvres un débat qui est important, effectivement, oui.
C'est ça, là on n'a pas plus d'explications là-dessus pour l'instant. Voilà, bon, on verra bien hein, si on a des suites de tout ça la semaine prochaine.
Oui, sûrement.
Voilà, c'était bon, une manière d'ouvrir le show, pas forcément la meilleure à mes yeux, mais ça reste quelque chose de quand même spectaculaire et propre au final. Hein. Alors, on a une petite pub ensuite pour le nouveau jeu vidéo qui va sortir WWE 2K17. Plutôt pas mal faite la pub. Ce qui est marrant, c'est qu'on
Oui.
voit Alberto Del Rio dedans.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ça fait plaisir de revoir Del Rio, ouais.
Ouais, il est tout charismatique, tout avec sa belle gueule. On se dit qu'ils ont vraiment loupé quelque chose en le laissant partir. Voilà, alors après, on a Mick Foley qui est dans le ring et qui nous parle de l'affrontement qui a volé le show pendant le pay-per-view de Clash of Champions, la finale du Best of Seven entre Sheamus et Cesaro, qui s'est terminée donc par un no contest. Pour raison médicale, puisque c'est les médecins qui ont arrêté le combat. Cesaro était visiblement blessé au bras, et Sheamus, il voyait plus trop clair, hein, il savait plus trop où il habitait. Et donc, Mick Foley fait venir Sheamus puis Cesaro sur le ring. Et bon là, chacun revendique un peu la victoire, chacun explique que c'était lui le plus dominateur, donc c'est lui qui a le droit au titre, hein, parce qu'il y avait enfin au title shot, parce qu'il y avait un title shot en jeu pour le gagnant. Rapidement, Mick Foley, il explique que tous les deux ont raison, chacun de son côté. Et du coup, ils vont chacun avoir un title shot, mais ce sera pour le même championship, pour le championship tag team. Il leur explique qu'ils vont former une équipe tous les deux ensemble et qu'ils vont partir à la course au titre. Là-dessus, on a les champions qui débarquent, le New Day, et ils partent pour un rematch de. En fait, ils débarquent pour leur match de ce soir, hein, qui est un rematch de Clash of Champions, ce qu'ils affrontent à nouveau Gallows et Anderson. Donc ça s'enchaîne tout de suite, hein, Cesaro, Sheamus quittent le ring, et c'est New Day qui débarque, et ensuite Gallows et Anderson. Bon, on a à peu près un match similaire à ce qu'on avait eu à Clash of Champions entre Gallows Anderson et le New Day. Gallows Anderson, ils sont quand même décidés à pas se laisser faire, hein. Ils reprennent leur tactique d'aller sécher à l'extérieur du ring Biggie, puis ensuite Xavier Woods. C'est Gallows qui s'en occupe à un coup de corde à linge de Bigfoot. Ils passent pas loin de la victoire. Mais au final, c'est quand même le New Day qui remporte grâce à Kofi Kingston qui arrive à placer un Trouble in Paradise après s'être fait exploser le front et il termine en sang, Kofi Kingston, dans le match. Donc voilà, encore une victoire du New Day. Mais donc, on a maintenant Sheamus et Cesaro qui sont dans la partie. On les retrouve d'ailleurs, Sheamus et Cesaro, un peu plus tard dans l'émission. Il y a Mick Foley qui vient les motiver en quelque sorte dans les coulisses en leur expliquant que leur association elle peut changer la face du catch par équipe. Ça s'est vu par le passé, ils peuvent le refaire. Ils les engueulent, hein, ils veulent qu'ils cessent de se disputer et qu'ils se focalisent sur l'exploit qu'ils ont à accomplir en fait, hein, que c'est quand même une belle opportunité pour eux. Et donc un peu plus tard dans l'émission, on a le premier match de Sheamus et Cesaro ensemble qui affrontent donc deux jobbers anonymes. Donne leur nom, mais je les ai pas notés. Donc dans le match, hein, c'est un peu concours de beat, hein, on fait des souplesses en montrant à l'autre qu'on est très balèze. Après, c'est l'autre qui fait les souplesses. Ça s'engueule. À un moment donné, Sheamus appelle Cesaro pour faire le tag. Puis quand Cesaro arrive, Sheamus descend et dit non, je te fais pas le tag en rigolant. Et puis ça se termine sur Sheamus qui fait des drops, des pour kick aux deux adversaires. Alors que c'est Cesaro qui est censé être l'homme légal. Et puis Cesaro est obligé de faire le tomber sur les mecs que Sheamus a assommés. Et puis après, on fait un concours de popularité après le match. Voilà, donc finalement une division tag team qui se renouvelle. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi, Raphaël?
Ouais, t'as fait un long packaging là, mais t'as eu raison. Oui. D'abord sur on va commencer par le plus rapide, c'est-à-dire le rematch. Donc ouais, ça fait deux rematchs de la veille en fait, dans la même soirée. C'est peut-être un peu beaucoup et un peu rapide. Et comme t'as dit, c'était encore un match correct, mais du coup toujours sans suspense. Hein, quand t'as 401 jours de règne, tu vas pas perdre sur le Raw du lendemain, enfin ça aurait été le
Ça.
Raw du lendemain de WrestleMania ou de SummerSlam encore, mais bon, le Raw du lendemain de Clash of Champions, c'est pas non plus un moment de ouf. Mais c'était pas trop mal par l'histoire racontée, parce que le New Day a quand même gagné clean ce coup-ci, sans tricher, mais on sent qu'ils se sont vraiment sortis les tripes. Alors du coup, il y a eu la blessure non scénarisée, j'imagine, de Kofi Kingston qui rajoute un peu de dramaturgie, mais c'est vrai que le voir finir lui tout seul sur le Trouble in Paradise et pas sur leur finisher à deux, c'était assez sympa. Et puis du coup, effectivement, là, pour le coup, je pense que ça tourne la page de Gallows et Anderson en tant que challenger. On verra s'ils peuvent rebondir ailleurs. Et ça ouvre des perspectives pour le duo. D'ailleurs, j'avais envie de proposer un petit jeu pour tous ceux qui nous écoutent, hein, de proposer un nom pour l'équipe de Cesaro et Sheamus, et le meilleur nom gagnera un prix qu'on va discuter entre nous dans les rédactions de Ketchup. Qu'est-ce que t'en dis?
Oui, c'est possible, c'est tout à fait faisable. Écoutez dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à nous faire vos propositions. Là, comme ça, à part Cesaro, mais c'est pas super,
Ouais, c'est pas
c'est pas terrible là. Écoutez, ça peut être marrant. Pour le reste, hein, je suis d'accord avec toi, hein, c'est-à-dire que effectivement, sur ce match-là entre Gallows, Anderson et New Day, voilà, on a déjà vu ça, et puis y a pas grand-chose de nouveau qui fait qu'on va être renversé. Ça reste joliment exécuté, mais c'est sûr que ça sent la fin de parcours un petit peu dans la course au titre pour Gallows et Anderson. Et puis bon, sur l'association Sheamus-Cesaro, je pense qu'on s'oriente vers un truc qui va ressembler à la team Hell No. Je pense que ça peut être rigolo.
Oui, c'est exactement ce que ça m'a fait penser, moi, quand ils ont fait quand ils ont fait leur petit concours de popularité à la fin, et je crois vraiment que ça peut bien marcher. Alors on pourrait en débattre longtemps. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attendrait pour notamment pour Cesaro, hein. Je pense qu'on est tous des très grands fans de Cesaro, et tant qu'il brandira pas une ceinture mondiale à WrestleMania, on trouvera qu'il est sous-utilisé. Et c'est vrai que s'il avait pu avoir un vrai title shot individuel pour l'Universal Championship, ça aurait été mieux, mais ça va être une association, à mon avis, qui va être sympa sur le ring. Ils ont moyen de nous faire rire par leur petite concours de pectoraux tout en étant bon sur le ring, et puis ça marche bien, ouais, comme tu le disais, la Team Elno c'était hyper populaire. Là il y a un peu bon, Slater Rhino c'est un peu différent, mais c'est aussi deux mecs qui s'associent sans trop se connaître au début, donc ça marche bien ces associations, et je pense que bah, peut-être que finalement elle est là, l'équipe qui battrait le New Day. En tout cas il y a moyen à ce que ça soit intéressant à suivre.
Ouais, en tout cas comme ça paraît les plus crédibles hein, pour aller faire tomber le New Day. Alors est-ce qu'on n'a pas Cesaro qui s'embarque dans une carrière enfin un peu à la même manière que Daniel Bryan au final hein. Est-ce qu'ils vont pas le faire passer par les mêmes étapes pour en faire leur nouvelle superstar
Ah ben ça, moi j'adhère, hein. S'il fait aller, disons 3 4 mois de tag team champion, et qu'ensuite il refeud avec Sheamus, bon ça fera peut-être un peu beaucoup. Et après hop, on se retrouve en juin prochain et il gagne le Money in the Bank ou je ne sais quoi pour devenir. Ouais non, c'est, on peut espérer que ça soit une bonne occasion de lui faire de la pop. De toute façon, son meilleur moment de carrière jusqu'à présent, ça reste son équipe avec Tyson Kidd, donc.
Ouais, au final, oui, de tout ce qui s'est passé avant, il était pas mauvais en tag team déjà, effectivement, avec Tyson Kidd. Voilà, bah on va voir ce que ça va donner avec Sheamus. Hein. Ça, pour l'instant, c'est bien parti. C'était peut-être ce qu'il y avait un des moments les plus intéressants de ce Monday Night au final.
Ouais, on sent que Sheamus, on l'a déjà vu en face, il est pas mal aussi, donc il va pouvoir basculer petit à petit, je pense.
Ouais, voilà, bah il va prendre un peu de la pop de Cesaro, je pense, au fur et à mesure, hein, comme Kane à l'époque. Hein. Ça va être voilà bah, il faut c'est le type d'association qui a déjà fonctionné, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, surtout avec deux gaillards talentueux comme ça. Alors bon bah tout ça hein, on en verra un peu plus dans les semaines qui viennent. Pour ce qui est de la suite de l'émission, bah, on apprend que Seth Rollins s'est blessé au niveau des côtes, donc encore une mauvaise nouvelle hein, pour les pauvres fans de la WWE que nous sommes, encore un nouveau blessé parmi les main eventers. Donc voilà, on a une montre, une image des radios de ses côtes apparemment. Et donc voilà, on apprend qu'il est blessé. Alors un peu après dans l'émission, on va s'attaquer un petit peu à la section féminine. On a Bayley qui affronte une dénommée Anna Fields qui a un costume horrible et qui est pas terrible dans le ring. Bon, c'est un match assez rapide, c'est Bayley qui gagne hein, évidemment. Et donc, après, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce match.
Non, bah, faisons le packaging de la division féminine, on
Ouais,
verra après peut-être.
on enchaîne. Bah après, un peu plus tard dans l'émission, c'est Charlotte hein, qui vient sur le ring. Donc elle explique qu'elle a encore gagné, que c'était sa soirée, Clash of Champions, qu'elle est décidément imbattable. Je crois qu'elle est toujours invaincue en pay-per-view, je crois que c'est quelque chose comme 12-0.
Ouais, c'est ce qui a été dit, ouais.
Ouais, c'est ce qui a été dit dans l'émission.
Invaincu en pay-per-view. Pour le titre mondial,
Ouais,
je crois,
pour
hein.
le titre, ouais, ça doit être
Mais
quelque chose comme ça.
ils ont dû perdre avec la team. Ouais, non, avec la team PCB, non. Bah, je sais plus. Peut-être
Ouais.
invaincu tout court, ouais.
Parce qu'ils disent quand même 12-0, donc je pense que 12-0, c'est que ça doit quand même compter tous les pay-per-view qu'elle a fait. Hein. En tout cas en solo, on va dire. Donc voilà, elle dit c'est dommage, hein, vous êtes tous déçus quand c'est moi qui gagne. Voilà, vous préférez que ce soit Bayley ou Sasha Banks, mais rien du tout, c'est moi le money maker au féminin de la WWE. Et là-dessus, donc évidemment, il y a Sasha Banks qui arrive. Donc, bah, évidemment, elle vient réclamer son rematch, hein, comme tout le monde. Donc, et bah, Charlotte, elle dit, bah oui, bah, si, je t'accorde ton match. C'est parti, elle enlève son peignoir. Et au dernier moment, elle fait, je t'accorde ton match, mais pas cette semaine, la semaine prochaine. La bonne blague. Donc ça, Sasha Banks, ça l'énerve, elle lui met une gifle. Elle s'attaque à Dana Brooke qui était là, hein, depuis le début évidemment. Et puis bah, ça se termine par Sasha Banks qui arrive à se débarrasser à la fois de Charlotte et à la fois de Dana Brooke, et qui reste donc bah, un peu victorieuse, hein, sur le ring. Le match Charlotte-Sasha Banks est signé pour la semaine prochaine du coup. Donc là, je l'ai fait rapidement, mais c'était quand même assez long, là, le passage de Charlotte sur le ring, au micro. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment bien géré la foule. Je sais pas si t'as pensé de même, toi, Raphaël.
Oui, bah je crois qu'on se félicite tous des progrès de Charlotte parce que là pour le coup on l'a vraiment vu partir de loin ces dernières années, enfin ces derniers mois. On se souvient encore de ses promos très très laborieuses quand Paige parlait de son frère ou quand elle parlait de son père. Enfin bref, elle semble beaucoup plus à l'aise en heel et maintenant elle est vraiment très 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 bonne dans son personnage méprisant de Queen et ouais, moi j'ai trouvé pas mal au micro aussi. Et Sasha Banks, on le dit tous, mais c'est beaucoup plus laborieux. Mais je crois que c'est normal parce qu'elle aussi, bah, c'est quand même une fille qui se débrouille beaucoup mieux en heel, hein. À NXT, elle était délicieuse dans ce rôle-là. Voilà, le problème c'est qu'elle est heel, mais son catch donne vraiment envie de la soutenir. Mais en face, ouais, elle dit pas grand-chose d'intéressant, quoi.
Ouais, c'est toujours un peu ce même souci avec Sasha Banks. Et puis Charlotte, plus ça va, plus elle explose. Et au micro, ça devient vraiment quelque chose. Hein. Là, elle a vraiment maîtrisé le public. C'était assez impressionnant. On aurait dit une taulière, quoi. On était presque au niveau d'un Chris Jericho, quoi. Non, bah voilà, plutôt au final, plutôt un bon segment. Bon, bah, on va repartir sur une rivalité Charlotte-Sasha Banks, ça c'est pas pour me déplaire. Est-ce que toi tu trouves que c'est un peu trop de la redite ou ça te
Bah,
dérange pas?
c'est mine de rien. Donc là, avant de parler, je viens de visionner un peu SmackDown. C'est vrai qu'il y a moins de têtes d'affiche chez les filles, mais ça paraît plus homogène, hein. C'est aussi parce qu'il y a eu un six-pack challenge là où toutes les filles paraissent un peu légitimes pour être des prétendantes, alors que là, Bayley, Sacha, Charlotte, Charlotte, Sacha Bayley. On n'a pas eu Nia Jax cette semaine. Hein. On sait pas trop ce qu'elle a fait. Et Bayley, bah ouais, quand même, c'est un peu bizarre de lui renvoyer le lendemain une jobbeuse locale dont tout le monde se fout. Alors elle a gagné, elle a dit un petit truc au micro quand même, comme quoi, ouais, bon, elle allait pas tarder à revenir dans la title picture, mais bon, on sent que c'est son personnage à Bayley aussi d'être une fille un peu discrète, un peu modeste. On sent qu'elle a envie de reconstruire un petit peu petit à petit, quoi, de pas se brûler les ailes trop vite. Mais je sais pas qui on va lui donner en attendant. Sacha Charlotte, ça promet d'être bien, mais c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas énormément d'autres possibilités, quoi. En attendant, je ne sais pas si je peux encore espérer ou pas un éventuel retour de Paige, qui a priori reste quand même sous contrat malgré les clivages, mais serait plus ou moins blessée. Non, chez les filles, il faut pas que l'une des trois se blesse gravement, quoi.
Ouais, c'est sûr. Parce que là, c'est vraiment, on est dans le triangle. C'est un peu réduit. Mais bon, bah, on verra pareil, hein, ce que la suite nous réserve pour tout ça. Alors, on va passer à la suite. On va enchaîner avec les Cruiserweight, hein, la nouvelle division qui a débuté la semaine dernière. On a deux matchs de Cruiserweight cette semaine. On a un match en équipe avec Rich Swann qu'on avait déjà vu et Cédric Alexander exact, également qu'on avait déjà vu la semaine dernière dans le Fatal 4 Way. Eux sont en équipe et ils affrontent Drew Gulak et Lince Dorado. Donc eux, ils n'étaient pas encore venus à Raw, c'est leur première apparition à Raw. Ben, ils ont participé aussi, hein, au Cruiserweight classique. Donc bah, c'est un du coup là on a un vrai match de cruiserweight. Ça saute dans tous les sens, hein. Il y a du moonsault, il y a des coups de pied retournés, en veux-tu en voilà. C'est un peu c'est Drogula qui est plus dans le type de faire des soumissions, un hein, catcheur plus technique. Les autres c'est clairement des Half-Flyers. On a une victoire de Rich Swann et Cédric Alexander. Après bon, un match bien énergique. Je te propose qu'on enchaîne sur le deuxième match, si ça te
Oui,
dérange
on
pas.
va. Oui, on analyse un peu ensemble.
Voilà, alors c'est la première apparition de TJ Perkins donc à Monday Night Raw. Il a gagné son match à Clash of Champions contre Brian Kendrick. Il y a une petite interview de lui par Tom Phillips qui est interrompue par Brian Kendrick, justement, qui lui explique que la ceinture Cruiserweight, elle a été réactivée, ressuscitée pour Brian Kendrick. Donc TJ Perkins, quelque part, il lui est redevable et ils régleront leur compte incessamment sous peu. On apprendra que bah, la semaine prochaine, ils s'affronteront à nouveau pour le titre Cruiserweight. Ce soir, TJ Perkins, il affronte Tony Nese, The Premier Athlete. Un flyer du calibre de Neville, hein, on va dire. C'est un mec très musclé, mais qui est aussi capable... bah, de virevolter dans le ring. Voilà, on est quelque chose comme entre Neville et Apollo Crews, quoi, hein, quelque part. Bah, le match est plutôt bien cool, hein, parce que c'est deux très bons athlètes qui en plus se connaissent pas mal. Ils sont pas mal affrontés dans les circuits indépendants aussi. Ils étaient tous les deux à la Evolve, hein, ces dernières années. Et c'est la victoire de TJ Perkins, évidemment, donc sur son toujours sa prise de soumission. Et on a eu vraiment quelques très très beaux moves dans ce match-là. Tony Nese, c'est quand même quelqu'un d'assez impressionnant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Raphaël?
Alors déjà, ça commence fort quand même avec deux matchs Cruiserweight. Hein. Moi, je m'y attendais pas spécialement. Ça occupe vraiment du temps d'antenne de Raw. D'ailleurs, on notera au passage qu'il y a eu donc un premier match, puis d'autres segments, puis le deuxième match, et qu'à chaque fois, ils changent les cordes parce que la division Cruiserweight est auréolée d'une couleur violette. Donc du coup, ils se font chier deux fois à changer les cordes, ou je sais pas trop comment ils font, mais
Ouais, c'est
bon.
étonnant ça. Je sais pas quel objet c'est.
Oui, bah si, il y a des segments micro, là, enfin backstage, mais du coup maintenant, à chaque fois quand on verra un long segment backstage, on se dira, ah, ils sont en train de préparer, ça va être les cruiserweight après.
Ouais.
Mais
Ils sont en train de changer les cordes, c'est rien.
ouais, bah si, on parle un peu des deux matchs. Donc le premier, moi j'ai trouvé ça, bah de toute façon les deux, j'ai trouvé ça assez bien. Le premier était vraiment sympa, l'équipe gagnante, là, Alexander et Swan, je les aime bien et j'ai l'impression qu'ils sont déjà pas mal populaires. J'ai moins noté les deux autres. Moi, j'ai un peu du mal avec les luchadors parce que j'aime bien les expressions faciales dans le catch et comme ils sont toujours un peu bah, masqués, donc un peu austères, je communique moins, je trouve.
Ouais, ça c'est pas faux, hein. C'est un problème ça
Mais
dans la lucha
ouais.
libre.
Mais c'était pas mal. Alors je me demande quand même sur le long terme, est-ce que à force tous ces débuts de match où il y en a un qui veut faire une clé de bras, l'autre qui passe par-dessus, par-dessous, hop, là ça se projette dans les cordes, ça c'est un peu des classiques des cruiserweight, mais est-ce que ça risque pas de lasser? Et on va parler un peu du sujet qui fasse, parce que dans le deuxième match, on a quand même eu une bonne période du combat qui a été un peu rejetée par le public, qui s'est mis à scander le nom de CM Punk puis de Randy Savage, donc c'est que ça n'accroche pas trop. Alors certains critiqueront véhément le public. Moi, je suis plutôt à me dire que c'est que la WWE a pas trop réussi à les accrocher quand même, à les emporter dans l'histoire là sur ce moment-là. Est-ce que TJ Perkins s'est vraiment bien présenté? Il a l'air populaire, mais là, ça a pas trop marché quoi dans la foule, j'ai trouvé. Je sais pas, t'as eu comme moi le même
Et ben
ressenti, non?
c'était ce que je me demandais parce que bon là j'ai fini de le regarder il y a pas très longtemps, il y a quelques minutes le Monday Night Raw, et effectivement au passage des Cruiserweight j'entendais bien qu'ils scandaient des choses, j'ai bien cru comprendre qu'ils scandaient Randy Savage et donc avant ils scandaient CM Punk, d'accord, donc effectivement il y a une bonne partie du public qui est sortie du match au final, hein. Donc ça bah, moi je pense que le gros problème c'est qu'ils devraient pas placer les matchs comme ça en milieu de carte. Ça se place en début de match, des matchs de cruiserweight, en début de show, hein, en fait, hein, pour ouvrir le show. Hein, au lieu d'avoir placé ce rematch pour le titre US, là, entre Reigns et Rusev, puis après enchaîner sur un rematch des tag teams, clairement, ils auraient dû ouvrir le show avec les cruiserweight. C'est fait pour ça, les cruiserweight, pour ouvrir le show, pour chauffer la salle. Parce que je pense que pour toi, qui les connais pas, par exemple Lince Dorado et c'était Drogula qui était là, je pense que t'as pas forcément te rendre compte un peu de, comment dire, du charisme qu'ils peuvent avoir et de, tu peux peut-être pas les voir autrement que des jobbers de luxe un petit peu les deux là sur ce match-là.
Ouais, c'est sûr qu'ils en ont. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le Cruiserweight classique, il y a beaucoup beaucoup de monde là qui a été signé quand même. Mais ceux qui sont bons, ça prend vite. Enfin là, Alexander et Rich Swann, moi je suis déjà assez fan et je pense que là ce match tag team était assez bon. Mais c'est vrai que l'autre match, pourtant TJ Perkins, il est populaire quand il arrive et on sent qu'il est bon, mais ça a pas. Moi, je vais te dire mon point de vue. Je pense qu'il faudrait assez rapidement donner cette ceinture à Brian Kendrick en fait, parce que c'est beaucoup plus intéressant à suivre quand c'est un méchant qui a une ceinture et qui a un gentil qui veut la gagner que l'inverse en fait. Et ça donnerait peut-être plus de poids d'avoir un vieux heel expérimenté qui pourrait trash-talker un peu les petits jeunes qui virevoltent. Moi, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça pourrait remotiver un peu la division.
Ben, clairement, si on se base sur ce qu'on voit là, ils sont plantés comment dire, la présentation de TJ Perkins, hein, donc ils sont à côté. Après, TJ Perkins, c'était dans la carte indépendante, c'était même un mid-carder, c'était pas le mec qui faisait les main events de show à la Evolve, quoi, hein, c'est plus. Parce qu'ils ont récupéré beaucoup de gens de la Evolve, hein, c'est pour ça que je parle de cette fédération. Que ce soit Drew Gulak, TJ Perkins, Rich Swann, Cédric Alexander, tout ça c'est des gens qui faisaient les shows de la Evolve, et ils n'étaient pas forcément en main event. C'était Johnny Gargano qui est pour l'instant coincé à NXT en tag team, qui était un peu la superstar de la Evolve. Ils auraient dû le faire monter lui, le faire gagner lui. Enfin bon, c'est que mon point de vue, hein, mais voilà, TJ Perkins, c'est peut-être un petit peu léger pour lancer cette division et puis la placer comme ça en milieu de carte. Voilà, les gens ils sont pas dedans au moment, disons, c'est pas le moment où ils ont envie de voir du catch technique de high flyer. La place des cruiserweights, c'est en début de show, et puis voilà, il y a des règles un petit peu à respecter quand tu montes un spectacle. Voilà, je pense que là-dessus c'est pas faux. Et après, effectivement, ça perdrait rien du coup de faire gagner Kendrick, récupérer la ceinture, un mec que les gens connaissent, et puis essayer de monter une espèce de storyline dessus. Mais tant qu'ils feront débarquer comme ça des catcheurs à la va-vite, quatre d'un coup, et puis derrière, rien de spécial, pas de storyline spéciale, les gens vont pas trop s'intéresser à ça parce que ça reste quand même un catch qui se démarque du catch classique.
Ouais, est-ce que tu sais là de tête à peu près combien ils en ont signé là? Combien dans cette division ils sont? 10, 12?
Bah, je crois que du coup on doit atteindre la douzaine. Je me souvenais pas qu'ils avaient signé Drew Gulak. J'étais étonné de le voir. Mais ouais, moi, je pense qu'on doit bien atteindre une petite douzaine là du coup, hein,
Ouais, je pense qu'il va y
et
avoir de
même voir un peu
l'écrémage de toute
plus.
façon, hein.
Ouais, bah après je sais pas s'ils veulent faire deux matchs par soirée. Il y a de la place. Ils sont aussi à main event, hein, les
Ouais,
cruiserweight en fait,
sûrement.
hein. Donc il y a de la. S'ils les ont signés, après on verra bien.
Ouais, mais je
Du coup,
pense
c'est
qu'il
mal
faut.
exploité.
Ouais, il faut peut-être moins de gars qu'on voit plus souvent, comme ceux qu'on a déjà revus deux ou trois fois. Voilà, on voit bien les divisions féminines ou tag team, ça tient sur 4 ou 5 personnes. Là, il y aurait 6 ou 7 noms. C'est vrai que 12, ça fait beaucoup. Ce qui serait sympa, peut-être, je sais pas ce que t'en penses, ça serait un petit à Survivor Series, un petit Elimination Match avec 5 Cruiserweight contre 5 Cruiserweight.
Oui, bah
Ça
ça pourrait
pourrait.
être quelque chose d'assez sympa, ça. Mais en ouverture de show,
Voilà.
pas en milieu de carte, parce que c'est là où les gens fatiguent et c'est là où tu classes un Braun Strowman qui fait un squash où les c'était la place où tu avais les part-time players quoi. Donc on s'est assez on a assez râlé sur le fait qu'il y avait des segments comme ça, mais c'est pas il y a quand même un placement dans la carte qui est important qu'il faut savoir respecter, et là c'est pas judicieux je trouve ce qu'ils font. Donc ça bon bah on verra par la suite s'ils font le nécessaire pour corriger ça. Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas de le lancer dans les commentaires, hein. On en discutera. Bah du coup, on va enchaîner, hein.
Oui,
Alors,
remettons les cordes rouges.
voilà, on va passer. Bah il nous reste que le main event, hein. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Donc, on va revenir. Alors, il y a eu un passage où on a vu Triple H qui venait bah, voir. Stéphanie McMahon, hein, son épouse. Donc il sort de la voiture, mais il rentre dans la voiture tout de suite, et puis on n'en verra pas plus.
Non, ça c'est. Je te permets. Enfin, je sais. T'as peut-être pas suivi. C'est un extrait de WWE.com qui a été filmé à la fin de Clash of Champions, en fait.
Ah d'accord, c'est pour
Donc
ça que je me disais, je comprenais
voilà,
pas.
c'est quelqu'un a filmé. Donc en gros, bah le mari qui vient chercher sa
Donc
femme à la sortie du travail, quoi. C'est.
ils sont encore ensemble. Étonnant.
Oui, bah alors. Vas-y, continue à raconter, mais je trouve ça très drôle. Vas-y.
alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on a? On a bah Mick Foley qui va se faire enguirlander par Stéphanie McMahon. Voilà, bah, elle lui explique qu'est-ce qui. C'est lui qui était censé protéger le main event, etc. Il a pas fait son boulot, et clairement, elle le critique sur son professionnalisme. Elle l'engueule sévèrement, et puis ben, il n'a pas trop de répartie sur ce coup-là, le pauvre Mick Foley. Et ensuite, on se retrouve un peu plus tard dans le show avec Seth Rollins. Je vais avoir du mal à le dire, lui, jusqu'au bout. Donc, Seth Rollins qui rencontre Mick Foley. Donc, ben, lui, Rollins, il est parti pour aller ruiner le highlight reel de ce soir, hein, qui est tenu toujours par Chris Jericho, qui reçoit Kevin Owens, son meilleur ami, mais Mick Foley, donc il empêche Rollins d'aller ruiner le show. Il explique qu'il est pas, il n'y va pas, je sais ce que c'est, t'es pas apte à combattre, donc retiens-toi. Ce qui énerve Rollins, qui dit un peu concrètement que Mick Foley, c'est la marionnette de Stephanie McMahon. Et donc, bah, on va arriver au main event. Donc, le main event, c'est le highlight reel. Chris Jericho qui reçoit le champion de l'univers, Kevin Owens. Alors, on a une petite référence à Ashton Kutcher et Danny Masterson, Dennis Masterson, si je dis pas de bêtises, son meilleur ami. Donc, qui via Twitter, bah, ont relancé Kevin Owens, que pardon, Chris Jericho, qui avait parlé sur eux il y a quelques semaines, en les traitant de ringards un petit peu, hein, de rebut des années 90. Et donc, la semaine prochaine, on les aura à Raw. Ils viendront s'expliquer avec Chris Jericho. Voilà, donc là-dessus, Chris Jericho, il enchaîne, il nous explique que Rollins est encore une fois blessé. Il dit bravo parce que lui, Y2J, de toute sa carrière, il n'a jamais été blessé. Et Chris Jericho, pardon, Rollins en un an et demi a déjà été blessé 3 fois. Et donc, bah, il fait venir son invité, Kevin Owens. Bon, bah, tout ça est bon enfant, hein. Il parle du prix du Gératron qui coûtait quelque chose comme 15 000 dollars il y a 5 ans. Kevin Owens, il se fout un peu de la gueule de Cincinnati, qui est la ville de Dean Ambrose. Il explique qu'il est le main event. C'est lui qui a blessé Seth Rollins. Et il explique que c'est le karma si Rollins s'est blessé, parce que Rollins, il a blessé beaucoup de catcheurs par le passé. Il a blessé par exemple John Cena, il a blessé Sting, le Hall of Famer, et Finn Balor. Donc c'est en quelque sorte l'homme le plus dangereux de la WWE, et Kevin Owens a éliminé l'homme le plus dangereux de la WWE. Donc c'est désormais Kevin Owens l'homme le plus dangereux de la WWE. Et on a alors Rollins qui débarque quand même, malgré les conseils de Mick Foley. La foule est en feu. Let them fight, let them fight. La sécurité débarque, Mick Foley débarque. On ramène Rollins dans les vestiaires. Donc là, l'équipe Jericho jubile. Vous auriez bien voulu que Rollins y vienne sur le ring, nous mettre quelques coups, mais ce ne sera pas pour ce soir. Et là-dessus, on a, à la surprise générale, la musique de Soft qui retentit, la Team Soft, et c'est Enzo et Big Cass qui débarquent. Et ben ça commence à se bâcher avec Chris Jericho. Voilà, vous n'êtes pas vraiment les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce que tu fais avec ta liste, Jericho? Parce que Jericho était venu avec sa liste, encore une fois. Là, il y a un échange bizarre où Chris, en fait, Big Cass, il dit: qu'est-ce que tu fais là, Jericho? T'es quoi avec ta liste et le Père Noël? Tu donnes des bons points. Et Jericho lui dit: bah ouais, ça se trouve, je suis le Père Noël et puis je vais venir m'asseoir sur tes genoux. Alors là, il y a un petit moment de flottement. Big Cass qui lui fait: qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu viens sur mes genoux. Déjà, normalement, c'est les gens qui s'assoient sur les genoux du Père Noël. Comme d'habitude, Chris Jericho, il fait le gars qui a rien dit, en fait. Hein, quand on lui demande de répéter, il dit: non, moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'allais te taper. Après, c'est Kevin Owens qui s'énerve. Il dit: je vais venir vous. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Au final, hein, on apprend qu'il y a un match qui a été signé entre la Team Soft et Jericho. Et c'est ce qui va constituer le main event. Ça va être un match assez classique où Enzo va se faire malmener pendant quasiment tout le match. Jusqu'au hot tag où Big Cass rentre dans la partie. Il fait un peu le ménage, mais il finit dans la précipitation par passer sur la troisième corde après un big foot. Il y a Enzo qui arrive quand même à exécuter un joli diving DDT sur Owens pour un compte de 2, mais Owens se relève, il lui met une corde à linge, une powerbomb, et c'est la victoire de Kevin Owens. Voilà, donc un main event qui était plutôt sympa, je trouve, au niveau du match final. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Raphaël?
Le match en lui-même était pas mal, ouais. C'est un peu un classique hein, de Soft avec effectivement Enzo qui en prend plein la gueule, hot tag, etc. Non, c'est pas trop mal. On a déjà eu, on va pas se plaindre, on a déjà eu deux rematchs le même soir de ceinture. Donc là, voilà, c'est le lendemain du gros pay-per-view. On temporise. Il y a une affiche de gala entre une équipe tag team très populaire, mais qui apparaît individuellement moins forte que le champion de l'univers qui gagne, ce qui est assez logique. Bon, je pense qu'on imagine que tout ça a été booké un peu précipitamment si Rollins s'est blessé. D'ailleurs, j'avais une question, est-ce qu'on sait combien de temps ça va lui prendre à cette blessure aux côtes? Parce qu'ils ont dit cette semaine il peut pas catcher, mais est-ce que c'est un petit truc de une semaine ou est-ce que ça durera
J'ai pas
tu sais?
pas du tout d'informations là-dessus. Je ne
Bah, vu
saurais pas
vu,
te dire.
vu. Ouais, vu comment c'était scénarisé, que Rollins était là et tout, à mon avis, c'est pas un truc très long qu'il a dû avoir, hein. C'est si des vertèbres froissées, je crois, ça dure pas très longtemps, non? Je sais pas s'il y a des
Ouais, je
médecins
pense
parmi nous.
pas, sinon il serait resté effectivement au repos, hein, parce que là il vient quand même jusque sur le ring, donc je pense qu'il est pas. Effectivement, ça doit être quelque chose d'assez bénin, hein.
Ouais, donc voilà, non, c'est pas mal le match, voilà, match de gala. Moi, j'aime bien quand entre le pay-per-view qui vient de se finir et le prochain, on prend quand même le temps de faire un peu une pause et de construire les choses. Quand le Raw du lendemain du pay-per-view, on sait déjà l'affiche. Bon là, on la devine, mais quand tout est déjà booké et qu'il n'y a plus qu'à pendant 4 semaines se renvoyer la balle, ça me saoule un peu. Donc là, il va y avoir une petite construction. Moi, j'adore la Jericho List. Enfin, il a été excellent là à marquer tout le monde, le public, le caméraman qui le filme pas sur son bon profil sur la liste. Donc, il a un bon personnage de heel comique, mais qui à la fois dès qu'il faut se battre, ça reste Chris Jericho. Donc c'est ouais, je suis d'accord avec toi, c'était pas mal. Après, si on revient un peu en arrière dans le show, moi j'ai bien aimé le savon de Stéphanie parce que toutes les critiques qu'on a faites dans le podcast sur Clash of Champions, Eh ben, ils ont réussi à trouver une réponse. Alors, c'est peut-être un peu tard, mais voilà, on se disait pourquoi ce bordel là dans le main event avec ce ref bump, cet arbitre qui arrive pas, Stéphanie qui est obligée de le faire. Et ben, en fait, on a la réponse. C'est parce que semble-t-il, Mick Foley était trop occupé à aller voir comment allait Cesaro et Sheamus ce soir-là. C'est lui qui aurait dû donner l'ordre à l'arbitre d'arriver plus rapidement. Stéphanie est pas contente, donc bah, finalement, ça retombe sur ses pattes et c'est quand même assez rare dans le catch qu'ils arrivent à trouver une logique à un fait qui nous paraît un peu bizarre là, c'est ref bump et ces histoires. Donc c'est pas mal. Et puis ouais, moi je commence à avoir pitié là pour Mick Foley. On a envie de lui faire un câlin en lui disant allez, c'est pas grave. On a l'impression qu'il allait s'effondrer en larmes. Je sais pas ce que t'en as pensé toi.
Ouais, effectivement, ça clarifie un peu la situation entre Mick Foley et Stephanie McMahon qui commence à montrer son vrai visage. Du coup, on se prend bah, d'affection pour Mick Foley. Du coup, ça fonctionne plus, hein, les trucs sont un peu plus clairs. Et effectivement, c'est plutôt judicieux effectivement, d'avoir utilisé un peu le côté un peu bordélique du final de Clash of Champions. Bah pour être recyclé dans la rivalité toujours autour du GM de Raw et du titre universel. Ouais, non, je suis plutôt de ton avis sur tout ça, hein. Effectivement, c'est plutôt bien géré.
Ouais, voilà. Après, c'est vrai que le coup de Mick Foley et Seth Rollins qui vont dire ouais, on a vu sur www.com que il y a Triple H qui est venu te chercher et tout. Bon, enfin, c'est un peu ridicule, quoi. Je veux dire, ils sont mariés femmes depuis des années. On sait bien qu'ils n'ont pas divorcé, donc personne. Triple H semble ne pas vouloir venir expliquer son geste de trahison envers Rollins, mais. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un scoop de voir que Stéphanie et Triple H se parlent encore. Elle l'a dit d'ailleurs plusieurs fois les Raw précédents. Triple H ne veut pas venir s'expliquer, donc bah allez, on continue comme si de rien n'était. Voilà, mais bon, voilà. Tiens, c'est fou. Elle embrasse son mari et il vient la chercher dans la limousine. Bon, je trouvais pas ça. Ouais, bon, so what, quoi.
Ouais, il y a quelques segments qui sont placés pour placer des segments pour que le show fasse 3 heures, hein, j'ai l'impression. C'est des petites choses qui servent à rien qu'on pourrait passer, mais bon, ils aiment bien étirer le truc en longueur. Voilà, pour le reste, oui, bon, sur le match final, effectivement, comme j'ai dit, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. On a eu un Kevin Owens qui était bien méchant, bien trash talker. Y2J qui était toujours bah, toujours très très bon dans le ring et puis toujours très bon au micro, hein, la petite séquence highlight reel, c'était plutôt réussi, c'était plutôt marrant. Enfin, je sais pas, tu trouves ça marrant toi aussi, je pense que j'ai vu quelques personnes qui trouvaient ça un peu lourdingue, mais
Ouais, non, moi
pour moi
j'aime
ça
bien,
fonctionne
oui.
toujours, hein. Et puis Enzo et Big Cass, ils ont bien tenu leur rôle, hein. Moi je les ai trouvés bien à leur place dans le main event. Donc du coup, je suis parti sur une touche plutôt positive, alors que j'avais trouvé le reste du show assez mou, et puis notamment bah, le fait que ça fonctionnait pas au niveau des cruiserweights, je trouvais ça un peu dommage. Et puis du coup, bah, sur l'ensemble de ce Monday Night Raw, pardon, on va justement passer au mot de la fin. Le top, le flop, la note. Bah, je t'en prie, dis-moi, qu'est-ce que tu as topé, qu'est-ce que tu as floppé, et puis quelle note tu vas mettre?
Oui, alors bah c'était un Raw pas trop mal, mais bon, un lendemain de pay-per-view. Alors moi le top, c'est pas un moment particulier, donc je sais pas si j'ai trop le droit, mais je dirais l'absence, enfin la disparition de segments un peu pourris. Donc on a eu ni Braun Strowman, ni les Prime Time Players, ni Bo Dallas contre un Jobber. Donc ça, je suis assez content que ça ait disparu.
Ça
Donc on
t'a
va
pas
dire.
manqué.
Ça va peut-être revenir. Effectivement, comme tu disais, ça a été les Cruiserweight à la place, donc du coup c'est au moment un peu creux du timing du show, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais ouais, je préfère quand même largement qu'il y ait 25 minutes de Cruiserweight en deux matchs que ces segments-là, parce que bon, peut-être à la limite Bo Dallas est sauvable, mais ni Braun Strowman ni les Prime Time Players pour moi n'ont un niveau intéressant pour rester à la WWE. Donc ouf, ils sont plus là. Peut-être momentanément, mais bon, on verra. Donc ça va, bon, ça fait un mini top, mais c'est la chose principale. Dans les flops, ouais, moi le truc qui m'a le plus gonflé, c'est ces rematchs très très rapides, enfin,
Ouais.
qui arrivent très vite, sans que on nous l'explique. Bon, Reigns, Rousseff l'aurait demandé dès le lendemain, ok. Donc lui, il y a droit. Pourquoi le club y a droit? Parce qu'ils ont perdu sur une petite triche la veille, mais bon, on aurait pu nous le signaler. Donc c'est un peu trop rapide. Et du coup, j'ai bien aimé le show, comme tu as dit, avec une fin vraiment bonne et quand même quelques les matchs étaient assez bons, hein, les deux matchs pour les ceintures, même si malgré le fait qu'ils soient trop rapides, c'était assez sympa. Donc je vais dire 3 sur 5.
Ok, et eh ben sur la note déjà je vais te suivre, hein. Je vais mettre un 3 aussi. Pour les flops, je vais mettre la place des Cruiserweight dans la carte. Pour moi ça c'est vraiment pas la bonne façon de faire. Et pour les tops, je vais mettre la Team Soft pour pas mettre KO, Chris, pardon, Kevin Owens et Chris Jericho. Je vais mettre la Team Soft parce que je trouve, comme je disais tout à l'heure, qu'ils ont bien tenu leur rôle. Ils ont ce qu'il faut, je trouve, pour traîner dans les coins du main event.
Ouais, on peut souligner effectivement, je suis d'accord avec toi, leur utilisation. Tantôt ils sont dans la title picture, mais bon là c'est un peu bouché parce qu'il y a le New Day quand même qui prend beaucoup de place et tout ça. Tantôt ils affrontent d'autres main eventers qui forment des duos. Ils sont mis un peu à toutes les sauces, et puis comme ils ont un peu ce gimmick de mec qui en gros ils aiment bien trash talk, ils aiment bien la baston, en gros on les appelle, ils viennent, ça passe.
Ouais. Puis c'est loin d'être dégueu dans le ring. Donc voilà, ce sera mon petit top pour cette semaine. Voilà, bah écoute, on a fait le tour de la question. Bah écoute, je vais rappeler à nos éditeurs que on peut nous écouter donc sur la page YouTube des Cahiers du Catch. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter. Je te remercie pour ta participation, Raphaël.
Mais merci à toi, ce fut un plaisir, tu as géré ça d'une main de maître comme d'habitude.
Oh, merci beaucoup. Je te souhaite de bonnes vacances, hein, parce que il semble que tu t'en vas incessamment sous peu.
Et oui,
Et
effectivement, je vais rater nos merci, donc mais bon, c'est comme ça, c'est les vacances.
ouais, oh, tu rattraperas.
Oui.
Voilà, puis pour le reste, eh ben, les amis, à nouveau, je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Ciao, ciao!
Au revoir.